Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez?
Ouais, super.
Merci à toutes et tous d'être venus. On est très très contents de voir qu'on est aussi nombreux aujourd'hui pour se retrouver, pour commencer à discuter ensemble autour des questions des discriminations racistes. Je voulais remettre en perspective comment cette journée est arrivée, comment c'est organisé. C'est le réseau d'éducation populaire qui porte aujourd'hui l'événement d'aujourd'hui. Donc le réseau d'éducation populaire, c'est 8 associations. L'ATP, les 3 maisons de quartier, donc Saint-Nicolas, la maison de quartier des Ors, la maison citoyenne Noël Guichard, Roman International, l'AMJC, Ébullition et Accès. Accès, voilà. C'est 8 associations qui, chaque année, portent deux temps forts, un festival gratuit sur l'espace public, vous le connaissez tous, c'est le festival des pas de côté, et ce temps de colloque où on est amené à travailler, à discuter un sujet qui concerne les questions d'éducation populaire. Les deux dernières années, on avait travaillé avec le CESE autour de la question de l'implication bénévole, du renouvellement de nos instances, de la vie associative, des dynamiques de vie associative. Et aujourd'hui, ben, on est à travailler sur la question des discriminations et des discriminations racistes. Et je voulais aussi dire que plus globalement, l'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du FestiSol, le Festival des Solidarités, également porté par le réseau d'éducation populaire et d'autres associations. Et d'ailleurs, à la fin, on vous dira un peu la suite du programme parce qu'il y a plein d'autres événements qui vont arriver jusqu'à fin novembre, voire même début décembre. Et me présenter rapidement, moi c'est Armel, je suis le directeur de la maison de quartier Saint-Nicolas, juste à côté. Il suffit de faire un pas de côté et vous êtes à la maison de quartier. Et je vais animer cette table avec Clémence.
Et donc moi c'est Clémence de l'association L'Ébullition. Peut-être aussi dans c'est co-organisé aussi avec l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, puisqu'il y a tout un volet qui s'est fait en scolaire dans cette histoire-là. Donc pourquoi faire une journée qu'on a appelée contre les discriminations? En fait, on va pas parler de toutes les discriminations, on va parler principalement des discriminations qui touchent les habitants et habitantes des quartiers populaires. Ils sont à l'intersection de différentes discriminations, autant que ça peut être la couleur de peau, le lieu de résidence, l'origine supposée, la religion supposée. Et en fait, on le sait tous et toutes, leur stigmatisation a augmenté avec le drame de Crépole l'année passée. Et donc avec ces lectures qui sont simplistes et qui divisent la population et des discours politiques qui utilisent ces personnes-là comme bouc émissaire. Donc cette table ronde, avec cette table ronde, nos associations, elles souhaitent répondre à un besoin de compréhension des phénomènes de violence qui ont touché par 3 fois notre territoire en moins d'un an. Et en sortant des logiques racistes, binaires ou simplistes, mais en s'interrogeant sur les conditions de possibilité de cette violence. Et c'est à ça qu'on va travailler collectivement les prochaines heures. Pour comprendre, on avait envie de diversifier les points de vue. Ceux des habitants et habitantes des quartiers, des jeunes notamment. Pas seulement, on va pas être exhaustif, mais il semble qu'on les a trop peu entendus. Et puis aussi pour réfléchir ensemble, prendre du recul, de la hauteur, on a invité des chercheurs-chercheuses qui vont jouer le jeu d'un espace d'éducation populaire où on va mélanger les savoirs scientifiques avec des vécus des personnes, ou un espace où on a envie de nommer des choses, de se poser des questions sur les mécanismes en jeu et s'approprier collectivement des grilles de lecture pour comprendre ce qui nous arrive. Et ces grilles de lecture, c'est aussi des outils pour agir. Ça va peut-être créer de la frustration parce qu'on va être pas dans une forme conférence traditionnelle. C'est pour ça que il y a les livres des auteurs et autrices avec la librairie des Cordeliers tout au fond qu'on installera à la fin de la table ronde. Ici présente dans cette table ronde, il y a Isabelle Coutant qui est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Yvon Atonga, son co-auteur du livre « Petit frère ». Valérie Salapala, qui est professeure de sciences politiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne.
Bonjour.
Et Marwan Mohamed, qui est sociologue chargé de recherche au CNRS.
Bonjour.
Il y a aussi avec nous Céline Binderman de Radio Royan qui enregistre cette table ronde. Alors, pour commencer, on veut vous faire partager la parole des maires de quartiers de populaires, principalement du quartier de la Monnaie, qu'on a récolté à l'ébullition dans le cadre d'un projet contrat de ville. On les lit nous-mêmes, ces témoignages. C'est pas pour les invisibiliser, mais c'est pour pas les exposer, les surexposer. Et donc, l'idée, c'est de prêter nos voix à des histoires qui sont les leurs. Prêter nos voix parce qu'on se sent solidaire de leur parcours. On a interviewé une vingtaine de femmes, et parce qu'on avait un lien privilégié avec les femmes du quartier, hein, c'est voilà. Et certaines parlent de leur parcours, donc du passé et d'il y a quelques années, et d'autres du quotidien. Donc on va les écouter maintenant à travers les voix de Élodie et Mélanie.
C'est dur de se sentir pointé du doigt en tant que mère, alors qu'on fait tout ce qu'on peut pour nos enfants. On est des mamans comme les autres. On n'est pas d'accord avec ce que les jeunes ont fait à Crépol, ni avec aucune forme de délinquance. Ce sont des conneries. On travaille dur pour les élever, mais on ne peut rien faire contre le fait qu'ils soient décalés par rapport aux autres.
J'en peux plus des discours sur les jeunes de la Monnaie, qui seraient des délinquants. Enfant délinquant, ça ne correspond pas à mon enfant. Alors, peut-être il y en a, mais on ne peut pas parler pour tout le monde. Je ne peux pas me laisser insulter en permanence. On ne peut pas me juger sans connaître mon parcours. Moi, j'ai travaillé depuis 18 ans. Et on ne peut pas me laisser dire qu'on vit du RSA. Je paye ma taxe d'habitation et mon loyer depuis toujours. On ne peut pas dire qu'on est des parents qui profitent de la société.
Quand mon fils avait 15 ans, ça a commencé à mal tourner pour lui dans le quartier. J'ai souhaité quitter la Monnaie pour qu'il quitte cet environnement. Le problème, c'est que le quartier a complètement été abandonné. Il n'y a aucun dispositif pour les jeunes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ça génère un sentiment de rejet et d'isolement par rapport aux autres. Et ça glisse vers la délinquance.
Au fil des années, il y a les véhicules qui crament en bas de chez nous. Et les gamins à l'école, ils parlent de ça. C'est pas un environnement pour un gamin. C'est difficile de faire grandir des gamins dans ce quartier.
Moi, c'est pas pour moi que j'ai envie de partir. J'ai envie de partir pour mes enfants. Moi, j'y suis, j'ai l'habitude. Il y a ma famille, il y a mon travail. Mes enfants sont à l'école. On a notre train-train. Mais la stigmatisation... Quand mon fils et ses amis vont en ville, ils se font contrôler. Ils marchent en ville, ce sont des mineurs, ils se font contrôler. Ils vont faire les magasins, les mômes. Les mamans ont donné un peu d'argent de poche, ils vont s'acheter un survêtement, une paire de baskets. Ils se font contrôler, juste parce qu'ils viennent de la Monnaie. Avant, c'était pas comme ça.
Mon deuxième enfant est très bon à l'école. Mais quand tu lui parles d'études, il ne veut rien savoir. Il veut aller en pro. J'ai rien contre le pro, mais si tu as la chance d'aller en général et les capacités, pourquoi pas te donner une chance ?
Au lycée, on n'était pas beaucoup à passer en cursus général parmi mes copines. En seconde, j'étais la seule de la Monnaie dans la classe. La claque ! Le lycée du Dauphiné n'était pourtant pas loin de mon quartier. Je me suis retrouvée avec des gens que je ne connaissais pas, avec d'autres façons de voir la vie. Parfois, je me demandais comment j'allais tenir, parce que la gamberge des gens de ma classe était tellement loin de la mienne. Après coup, je pense que ça a été une deuxième naissance pour moi.
La Monnaie est un lieu à part. Quand je rentre à la Monnaie, j'oublie que je suis en France. Il n'y a rien d'attaché à la France. On est isolé. Tous les quartiers arabes, c'est pareil.
J'aimerais qu'on parle de l'islam autrement. Je ne comprends pas les médias et la société. Le message est tellement plus grand, plus beau. La pratique le complète. L'image de l'islam est salie. Les musulmans sont au cœur des médias depuis des années. C'est toute une communauté et une religion qui est visée. Je trouve ça triste et injuste, et je ne peux rien y faire, à part parler. C'était dur ces dernières semaines parce qu'il y a le massacre des Palestiniens qui est atroce. Personne n'en parle. Le meurtre à Crépol, puis la descente des fous fascistes qui ont adressé des menaces directement aux femmes, aux mères de la communauté musulmane. À la mosquée, on a reçu des directives de mise en garde pour faire attention. C'était vraiment très tendu. À l'école, le plan Vigipirate est encore renforcé contre les terroristes musulmans. C'est lourd. Quant à cet amour de l'islam, c'est lourd, parce que c'est presque de la calomnie. C'est tellement faux. On s'en sert pour avoir toujours la même cible. Quand il y a un attentat, il faut raser les murs.
J'ai 37 ans. J'ai vécu toute ma vie à la Monnaie. C'est la première fois que j'ai eu peur où j'habite. Je n'ai jamais eu peur. Il y a plein de choses qui s'y passent. Je n'ai jamais eu peur. Lors de la descente des fachos, j'ai eu peur. Pas forcément pour moi. J'étais chez moi. Ma maman, je savais qu'elle était chez elle. Mais on a eu peur pour nos enfants. On a eu peur pour nos maris, nos frères.
Mon père nous a appris une chose, c'est la valeur travail. Comme tous les pères. La génération de pères qui est arrivée dans les années 60-70 à Romans a travaillé dans toutes les tanneries. À la fermeture de la tannerie Cara et de la tannerie Robert, ils se sont retrouvés sans boulot. Et retrouver du boulot à 50 ans passés, c'est super compliqué. À ce moment-là, nous, on était ados. On a très peu vu nos pères travailler. Ça a créé un rapport au travail compliqué.
Nos mères à nous, elles ne faisaient pas l'usine. Les mères d'aujourd'hui, elles font les 3 à 8. Elles se déboîtent la santé dans les usines pour amener le pain à la maison. Les mères, elles ont 150 000 casquettes. Parfois, j'ai envie de vriller. On fait quoi de plus ?
Aujourd'hui, mes plus grands-enfants sont adolescents. C'est dur pour eux de trouver un sens. Les adolescents n'ont plus de rêve. Ils sont déconnectés de la réalité. Moi, à 20 ans... Quand j'ai commencé à travailler en France, je rêvais de m'acheter une paire de baskets Nike. C'était inaccessible au Maroc de pouvoir se payer des chaussures de marque. Je travaillais quelques mois en faisant des économies pour pouvoir m'acheter des Nike. Mon fils, le grand, 17 ans et demi, ne veut aller ni à l'école, ni sortir de la maison, ni passer le permis. Je lui dis, il faut que tu fasses quelque chose. Il ne faut pas perdre les jours, les années comme ça. Il s'imagine qu'il ira travailler à l'usine à 18 ans et que ce sera facile. Ces jeunes n'ont pas l'expérience de la vie. Ils ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas de rêve.
Mon fils a 2 ans. Vous savez ce qu'il a dit à un policier ? Il a dit « Ara ». Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. On était devant chez moi. On a vu la voiture. Il a crié ce mot. C'est le flic qui m'a expliqué que c'était un mot pour alerter les dealers de la présence policière.
On est là. Il faut vivre ensemble. Pourquoi on laisse la monnaie comme ça ? Il y a des jeunes qui vendent de la drogue. Tout le monde le sait. Pourquoi les policiers ne trouvent pas une solution pour eux ? Ils vendent normal, tranquille, personne ne leur dit rien. C'est ça qui me choque. Pourquoi ils les laissent comme ça ?
Quand on a mal.
Merci. Donc là, on n'est pas dans un travail de recueil sociologique, mais pour autant, vous êtes habitués, vous, les chercheurs, chercheuses, à travailler avec de la parole d'habitants, habitantes. Et du coup, mon envie, c'était de vous donner, de faire une résonance avec vos regards et vos travaux à partir de ce que vous avez entendu. Peut-être on peut commencer avec Isabelle au bout de la table.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation, puis merci à toutes et tous d'être là. On est On est, touché par toute votre initiative et puis ému aussi du contexte et du fait que vous nous fassiez confiance pour que vous nous associez à votre réflexion. Donc, on est ici aujourd'hui avec Yvon parce qu'on a écrit cette année un livre qui s'appelle « Petit frère, comprendre les destinées familiales ». Et ce livre, c'est le point d'aboutissement d'une rencontre qui est due au fait que le petit frère d'Yvon a été assassiné en 2016 suite à des histoires de quartier qui se sont étalées sur plusieurs années. Moi, je suis sociologue, donc je travaille aussi effectivement comme vous le dites, par entretien, par observation. Je vais aussi, donc, je travaille sur les quartiers populaires. Quand j'étais jeune étudiante, je m'intéressais, comme Marwan Mohamed, aux sorties de délinquance. Qu'est-ce qui fait que, comment les éducateurs, les juges des enfants travaillent avec les adolescents, avec les familles, pour inciter les adolescents à sortir des logiques de rue. Et donc, à l'époque, c'était au début des années 2000, j'avais notamment observé des audiences de médiation pénale dans des maisons de justice. C'était des antennes du tribunal dans les quartiers. Et c'était l'idée de répondre à des tout petits délits dès le départ, et puis de faire venir des victimes, des jeunes, des familles. Et souvent, ça se traduisait par des lettres d'excuses. Et souvent aussi, les plaignants, ce qu'ils disaient, c'est « nous, on veut surtout qu'ils comprennent ». Qui comprennent, qui s'excusent. Il n'y avait pas forcément une volonté de répression. Et autour de ça, j'ai rencontré aussi des familles. Une des phrases qui m'avait marquée à l'époque, c'était une maman qui avait dit ça, qui disait « nos enfants s'évaporent ». Et ça disait quelque chose de cette sensation que la rue était plus forte que les parents, en fait. Et cette logique de rue, alors Marwan en parlera aussi, ou Yvon aussi avec ses mots, c'est fort, en fait, ce qu'ils vivent adolescents, avec les copains, dans la rue. Et c'est pas seulement la question de l'argent facile. On en parlait hier avec des collégiens. C'est aussi de l'estime de soi qu'ils trouvent dans la rue. C'est des amis, c'est des relations affectives. Et puis, c'est une image de soi positive, quand parfois, l'image à l'école, elle n'est pas très valorisante dans les parcours scolaires. Et cette logique de rue, c'est quelque chose qui est difficile parce que il faut tenir son rang dans la rue. Il faut défendre sa réputation. Mieux vaut être agresseur que victime dans la rue aussi. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc à la fois, il y a ces logiques qui peuvent aboutir à de la violence parce qu'il ne faut surtout pas être une victime. Moi, à l'époque, ça concernait aussi parfois des filles. Hein, donc c'était des quartiers dans le Val-d'Oise, dans le nord de l'Île-de-France. Et en même temps, il y a cette force du groupe qui fait que le groupe est plus fort que tout. Yvon en parlera mieux que moi, hein, de cette logique. Et puis c'est plus fort que le discours des parents à un moment donné. J'entendais souvent des mamans ou des pères qui expliquaient leurs difficultés en fait à faire, qui demandaient parfois une aide éducative. Et là, on leur disait en même temps, non, il n'est pas assez délinquant. Donc les parents exprimaient leur sentiment d'injonction contradictoire en fait, qu'on leur disait à la fois, il n'est pas bien, mais en même temps, débrouillez-vous. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais travaillé à l'époque. Et j'avais notamment rencontré Wilfried, le petit frère d'Yvon, qui à l'époque avait 20 ans. Et je m'étais intéressée à ce qu'il avait, lui, motivé pour mettre la rue à distance. Et c'était notamment le fait qu'avec un éducateur, il avait pu passer le brevet pour devenir animateur dans les maisons de quartier, les centres sociaux. Et il expliquait aussi comment le regard que les parents ou les enfants portaient sur lui-même, les parents qui venaient chercher leurs enfants, il avait le sentiment qu'il était regardé d'une autre manière que d'habitude. On ne le voyait plus comme comme un jeune à problème, mais on le voyait comme un animateur. Et que ça, c'était quelque chose d'extrêmement motivant pour lui, pour aller vers autre chose. Il expliquait aussi la saveur de l'argent propre, qui avait un autre goût que l'argent sale. Et il parlait aussi du plaisir de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Parce que la rue, les petits trafics, en fait, c'est un stress permanent. Et donc ça, je m'étais un peu intéressée à tous ces facteurs qui faisaient que des adolescents... sortait de cet engrenage. Le terme qu'ils utilisaient, c'est « je me suis fait engrener ». Donc l'engrenage, c'est difficile d'en sortir. Donc peut-être que je te laisse continuer.
Bonsoir. Donc Yvon Attonga, donc co-auteur du livre « Petit frère » avec Isabelle Coutan. Donc comme Isabelle vous expliquait, on a écrit ce livre-là suite au décès de mon petit frère, Wilfried, qui est décédé en 2016. Moi j'ai grandi à Villiers-le-Bel, pour ceux qui connaissent, c'est une ville de banlieue de région parisienne. où il y a les difficultés qu'on peut retrouver dans toutes les banlieues. Donc j'ai grandi dans une famille polygame. On était 14 dans un F3. On a grandi comme ça, donc deux mamans. Moi, je suis le dernier de ma maman, de ma fratrie. Et Wilfried, c'est le premier garçon de sa fratrie, mais on a grandi comme des jumeaux, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes amis. Voilà, on a vraiment tout fait ensemble. Et donc, on a grandi avec cette culture de la rue. Et donc, l'idée, à travers ce livre, c'était de réfléchir à savoir quels étaient les points de bifurcation qu'il y avait eu entre mon frère et moi au moment où moi j'ai décidé d'aller plus à l'école et de réfléchir à mon avenir d'une certaine manière en prenant un peu de distance avec la culture de rue et lui est resté là-dedans. Donc ensuite, par la suite, vous pourrez le découvrir dans le livre, je ne vais pas non plus expliquer toute l'histoire, mais il a eu des confrontations donc, dans le quartier avec son meurtrier. Et lorsqu'il a décidé de sortir du quartier, il s'était converti à l'islam. On est une famille chrétienne de base. Et il s'est converti à l'islam, il s'est marié, il sortait du quartier. Et c'est là qu'il a recroisé en fait son meurtrier qui l'a assassiné. Et donc après ça, c'est là où j'ai découvert qu'il avait pu rencontrer Isabelle des années auparavant. Et Isabelle venant donc au procès du meurtrier de mon frère, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien beaucoup plus affectif entre eux, enfin du moins émotionnel, et que c'était pas juste une chercheuse qui était venue faire une enquête sur un enquêté, mais qu'il y avait quelque chose de plus. Donc à partir de là, après le procès, je lui ai proposé de travailler sur ce livre. Petit frère, l'idée c'était de voir comment nous, avec ce livre et avec la recherche qu'on allait faire à travers ce livre, comment on allait pouvoir apporter une parole différente aux jeunes des quartiers et apporter des solutions aussi aux parents pour que les jeunes puissent comprendre qu'il y a d'autres perspectives pour eux lorsqu'on grandit dans un quartier, que c'est pas une fatalité et qu'il faut juste se donner les moyens et que voilà, on peut s'en sortir et qu'il y a des choses positives à construire. Donc voilà, et je voulais dire aussi merci pour le témoignage des mamans qui résonnent en moi parce que c'est des mamans de quartier et c'est aussi des mamans de mon quartier, là où j'ai grandi pour moi. Voilà.
Peut-être Valérie, on te laisse faire résonner avec tes propres approches qui vont nous amener aussi sur des logiques un peu structurelles aussi de ces questions.
Bonsoir et d'abord merci aussi pour l'invitation et l'organisation de cette soirée. Je trouve que c'est formidable d'organiser ce type de moment et moi aussi je suis heureuse et touchée de contribuer aux réflexions collectives. Et puis je voulais aussi remercier les personnes qui ont apporté ces témoignages et puis celles qui nous les ont transmis. Alors c'est vrai que mon regard est un peu différent puisque moi je ne suis pas du tout sociologue de la jeunesse. Mon approche c'est plutôt celle d'une sociologue de l'action publique, des politiques urbaines, des politiques du logement et d'habitat. Et ce que j'essaye de faire dans mes travaux c'est croiser l'analyse des politiques urbaines et la question des inégalités, des discriminations, hein, en essayant de comprendre comment est-ce que les politiques publiques produisent des inégalités, produisent des inégalités sociales, spatiales, ethno-raciales, produisent des discriminations. La première réaction que j'ai envie d'avoir, en fait, en écoutant ces paroles, c'est d'abord qu'on les entend trop peu. La parole des personnes qui vivent dans les quartiers populaires, elle est trop peu présente dans l'espace public. Et puis la deuxième réaction, c'est peut-être que finalement, ces paroles, elles font écho à celle de toutes les mères, en partie, hein, le souci de ses enfants, qu'ils puissent bien travailler à l'école, obtenir un travail, être heureux tout simplement. Et puis en même temps, ces paroles, elles témoignent aussi de difficultés qui sont propres aux mères et aux habitants qui vivent dans les quartiers populaires. Il y a bien sûr la stigmatisation, la criminalisation, ce sentiment d'être exclu de la France, de la société française, de l'identité française. L'expérience de la relégation spatiale. J'ai retenu aussi l'expérience de la violence de certaines institutions. On a parlé de l'école. La police également. Le sentiment d'abandon qui est exprimé. sentiment d'abandon de ces quartiers, notamment le fait qu'il y ait plus de dispositifs, ou de moins en moins en tout cas pour les jeunes. Et puis ben, j'ai retenu aussi l'expression d'une peur qui, en tout cas pour une partie des habitants et habitantes, est quelque chose de plus nouveau. Hein, puisqu'une personne disait que c'était la première fois l'année dernière qu'elle avait eu peur. Il y a autre chose qui me frappe, en fait, c'est le sentiment que tout ça est très ancien. Il y a quelque temps, j'avais croisé un livre, enfin un travail de recherche qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Dominique Laurin sur roman. Il a travaillé, il a écrit une thèse qu'il a publiée en 1982, donc ça commence à remonter. Et dans ce travail, il parle déjà de la stigmatisation dont le quartier de la Monnaie est l'objet. Et c'est une période qui est assez intéressante parce que c'est un peu le moment où la question, enfin ce regard très stigmatisant sur les quartiers populaires va commencer à se structurer dans la société française. D'ailleurs, il écrit à un moment, il explique qu'il y a eu un attentat contre une mosquée hein, de la Monnaie. C'est juste quelques mois avant qu'il publie sa thèse. Donc tout ça est vraiment une histoire longue qui n'arrête pas de se renouveler, peut-être de s'approfondir. Et puis, ben, moi, en fait, les liens que j'ai envie de faire, c'est donc avec l'évolution des politiques publiques aussi. Alors il y aurait plein de choses à dire. Peut-être juste pour démarrer là-dessus, pour moi, ça renvoie vraiment à la politique de la ville, aux recompositions des politiques de la ville. Donc cette politique qui se structure justement au début des années 80, dont l'objectif est de traiter la question des inégalités sociales entre les quartiers, qui n'a pas arrêté de se métamorphoser depuis, qui existe toujours, un petit peu, pas tant que ça, parce que quand même elle est très largement abandonnée ces dernières années, mais qui a subi tout un tas de glissements, et on pourrait dire un glissement sécuritaire. C'est-à-dire que le cadrage des quartiers populaires, petit à petit, a été de plus en plus réduit à cette appréhension sécuritaire des quartiers populaires et de leurs habitants. Et c'est un vrai souci. Voilà, peut-être je m'arrête là pour l'instant.
Je voudrais remercier les organisatrices et les organisateurs et vous toutes et tous d'être ici. Je suis ici depuis hier. Mon emploi du temps, il est bien rempli. Je me fais exploiter à Romans, je le dirai à Paris. Mais on s'attache vite. On s'attache vite aux gens, on s'attache vite aux lieux. Moi, je suis très content d'être là, vraiment. Je vous le dis sincèrement. La deuxième des choses, c'est que moi, ce qui m'a frappé en premier, c'est que, et je comprends tout à fait pourquoi, mais là, cette parole des femmes, des mères de la Monnaie, doit être portée pour les protéger. Déjà en soi, ça dit quelque chose du contexte. On ne peut pas, en tant que femme, en tant que mère, se présenter devant une partie de la population pour dire ce qu'on vit sans s'exposer à des risques. Ça dit quelque chose en soi, déjà. C'est déjà une manifestation de discrimination. C'est déjà une manifestation de racisme. C'est déjà une manifestation de mépris que de devoir passer par ces stratégies-là, par ce chemin-là, pour pouvoir faire entendre une voix. Ça dit quelque chose du contexte. C'est la première des choses. Et ça devrait choquer tout bon démocrate, quelle que soit son orientation politique. Toute personne attachée à la démocratie devrait être heurtée par le fait de passer par des stratégies de protection de femmes qui passent par le fait de porter leur parole sans qu'elles le portent elles-mêmes. La deuxième des choses, c'est que les paroles ont été très riches. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en fait, notamment sur la question de la stigmatisation des quartiers populaires. C'est d'abord une stigmatisation d'un lieu et des gens qui y vivent. Et c'est intéressant de mentionner une thèse des années 80 qui pointe déjà la stigmatisation du quartier. Moi, j'ai travaillé pendant ma thèse sur un quartier qui s'appelle Les Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne. Et en fait, la stigmatisation avait commencé avant la construction du quartier, avant même que les gens arrivent. Parce qu'il y avait un débat sur, tiens, la préfecture de la Seine, c'est comme ça qu'on l'appelait, Paris et Petite Couronne, veut implanter un quartier d'habitat et de logement HLM. Et donc, ça a été mis en délibération, en discussion au conseil municipal. Et ça a donné lieu à des débats. à des propos. Quand on lit les archives, on se rend compte qu'il y a une bonne partie de la population qui refuse. Le maire refusait, avec des mots extrêmement durs. Les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas là, ils sont déjà barbares, ils vont salir, ils sont dangereux, ils vont dégrader l'ambiance de la ville. Les gens ne sont même pas là, qui sont déjà rejetés. Dans la tête des gens qui y vivent, et voire une bonne partie de la majorité municipale. Sauf que c'est la préfecture qui passe en force. Le quartier est construit. Imaginez bien dans quelles conditions les premiers habitants sont accueillis. Vous voyez, des fois, c'est même pas une question de cohabitation. C'est l'imaginaire, il travaille avant que les gens soient là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les discriminations, c'est d'abord, et le racisme, c'est un ensemble de croyances qu'on associe à des populations. Et on va chercher dans la réalité ce qui va permettre de conforter et de confirmer les croyances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les discriminations, c'est coûteux. Ça se manifeste de différentes manières. Et là, les témoignages sont riches, en fait. C'est à l'école. Hein, selon le quartier où on habite par le jeu de la carte scolaire, on a des chances de cohabiter, davantage ou moins de chances de cohabiter avec des enfants plus ou moins bien préparés à l'école. On a plus ou moins de chances de cohabiter avec des enfants qui ont davantage besoin d'aide que d'autres. On a davantage de chances de cohabiter dans les classes avec des enfants qui ont des problématiques sociales plus ou qui s'accumulent. Et tout ça, ça crée pas les mêmes conditions de scolarité dès le départ. On sait, mais on le sait depuis longtemps, les premiers travaux de Pierre Bourdieu des années 70, par exemple, sur la question, et ce n'était pas les premiers travaux, mais sur la reproduction, sur l'origine sociale et familiale des inégalités scolaires, on connaît ça depuis très 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 longtemps, en fait. Et pourquoi on est encore en train d'en discuter aujourd'hui? Vraiment, je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'on est en train encore de produire des parcours de scolarité qui sont marqués par l'échec? L'échec scolaire dans les quartiers populaires, et ça, c'est une question de discrimination plus, parce que la scolarité aujourd'hui, le diplôme, le niveau de qualification scolaire détermine beaucoup la qualité des destins professionnels. C'est marquant. Et allez demander aux inspecteurs et inspectrices d'éducation nationale quel est le pourcentage des enfants qui sortent de maternelle des quartiers politiques de la ville et qui sont en difficulté dès le CP. Et ensuite au CE1. Et l'institution, malgré des enseignants qui se dévouent dans le quartier et qui s'engagent, il y a un effet de système qui fait qu'ils n'ont pas le temps de tout rattraper, ils n'ont pas les moyens de tout rattraper. Et cet échec scolaire, on en a parlé, a des effets plus loin. Ça, nos travaux le montrent très très bien. Hein. Le lien entre scolarité et sociabilité, notamment à l'adolescence. Ce qu'on va retrouver dans les phénomènes de petite délinquance, ce n'est pas les meilleurs à l'école. Hein. Ce qu'on va retrouver dans les logiques de bande, de petit trafic, etc., c'est-à-dire une forme de délinquance de compensation, beaucoup. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour excuser ou autre, c'est pas du tout la question, c'est pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a une surreprésentation des jeunes qui sont en échec scolaire dans les logiques de petite délinquance à l'échelle locale, et que la réussite à l'école protège de cette petite délinquance? Il en résulte qu'il faut peut-être investir massivement dans la réduction des inégalités scolaires pour travailler sur ces questions de sécurité et de délinquance, ou pas. Ou bien on reproduit d'une génération sur l'autre les mêmes situations, voire on les dégrade, voire elles se dégradent. Et peut-être, dernière chose avant d'avancer dans la discussion, c'est que, et ça a été dit dans les paroles, et je reprends juste les paroles des maires, les discriminations, vous savez, c'est disséminé. Vous voyez, le contrôle répété, par exemple, fait du centre-ville un espace inhospitalier qui vous pousse à rester dans votre propre quartier. C'est ça les conséquences directes. Hein. Le fait de rester dans votre propre quartier, de ne pas trop bouger, ne s'ouvrir, ça se traduit par une perte de chance de faire des rencontres, d'avoir des expériences, de trouver un travail, d'avoir un logement. Tout ça, c'est de la perte de chance sèche de la possibilité de s'insérer, de trouver une place. Et ça se joue à tous les niveaux, hein. Cette question de la perte de chance. Donc la question des discriminations, elle renvoie à la question, du racisme, ça renvoie fondamentalement à la question de l'égalité de ce qui fait de nous une société ou pas. Le racisme, c'est le refus de l'égalité. Et c'est la mise à distance. Et ce refus de l'égalité, cette mise à distance, tout ça a des conséquences dans la vie sociale. Prenez la même famille. Et vous la faites grandir dans un quartier aisé de je ne sais pas quelle ville, et vous la faites grandir la même famille, les mêmes conditions d'existence à la Monnaie, ça ne donnera pas les mêmes enfants. Hein. Parce qu'il y a un effet de l'environnement résidentiel qui est puissant. Donc les parents, quand ils disent « c'est compliqué, la rue nous fait peur », eh bien effectivement, les parents qui grandissent dans les quartiers populaires et ont une contrainte que d'autres parents n'ont pas, c'est de grandir dans un espace où il y a une offre de délinquance. Et ça, tout le monde ne vit pas ça. Tout le monde ne sait pas ce que c'est de vivre avec un enfant de 2 ans qui dit « Aha ». Ben oui. Un enfant de 2 ans qui dit « Aha », c'est une socialisation à la rue déjà. Alors il ne sait pas ce qu'il dit, il répète. Mais il comprendra à un moment donné ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une forme de normalisation, d'une forme de délinquance pour des enfants de bas âge. Mais est-ce que tous les parents vivent ça, en fait, dans les autres quartiers? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour finir mon propos, je pense qu'on oublie très, très, très souvent de se dire que les quartiers populaires les plus stigmatisés font partie d'une ville, et une ville, c'est un ensemble. Ce qui s'améliore dans les quartiers populaires améliore la ville. Ce qui se dégrade dans les quartiers populaires dégrade la ville. Pas possible d'y échapper.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas.
Je roule sur la marge, je vis en parenthèse. L'encre coule sur la page, je repars en 16. Je marche, je suis seul dans la foule. J'ai mon héritage sur l'épiderme. Ma tour 10 étages, j'écrivais ses viternes. Avancer sans la virgule, avec nos accents aigus, ou la montée au circule, ma voix sans le vécu. L'écran allume les passions, c'est tension. Comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations? Des points d'interrogation, est-ce qu'on peut blâmer la misère? Partout la crise a besoin de boucs émissaires. Un retour à Babel, t'en passes trop vite, j'écris. Conflit de civilisation, à qui profite le crime? La raison manque à l'appel, on sait même plus qui a tort. La religion fait diversion pendant qu'on chute à l'appel. Saute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame et corriger les fautes de français.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas.
Solitude plurielle, dans ces métropoles jumelles. À trop grailler le gravier, on oublie le goût du miel. Vision d'un monde, couleur, touche de clavier. La mélodie sonne faux, comme tout ce qui sort de leur bouche. Ça sent le fauve, sans le pavé de mon enfance. On était blanc, noir, arabe, c'est pas que j'insiste. Et le bac à sable, l'histoire commence comme une blague raciste. Nos vies se conjuguent, les cultures s'entrechoquent. On juge, on enterre le passé, au futur, ce que chantent les chocs. Et Marianne Radur, nos thèses. Moi j'ai l'impression que nos raps sont des pansements sur une prothèse. La température grimpe, la justice fait tapisserie. On est passé, touche pas mon pote, à islam et pâtisserie. Derrière les murs, entre guillemets, tu comptes les points de suspension. Pareil qu'à ça t'es prédestiné, vu tes origines sous tension. Chaute le pas, les grimpes, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame, corriger les fautes de français.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas, on se connaît pas. M'entends-tu quand je te parle? Me suis-tu quand je pars? Me ressens-tu quand je te parle? Me vois-tu malgré l'écart? Y'a tellement de fautes de français qu'on a du mal à se comprendre. Séparé par la virgule, comment veux-tu qu'on s'entende? L'écriture du manchot, c'est écrit entre les lignes. Apparence entre parenthèses quand l'encrier se vide.
s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas.
Merci beaucoup. Du coup, je propose qu'on aille un tout petit peu plus loin, donc dans chaque entrée, et du coup peut-être de revenir sur comment les politiques publiques construisent ces inégalités, et donc de redonner la parole à Valérie. Et puis on reviendra aussi après sur les phénomènes de groupe et puis sur les trajectoires, parce que heureusement qu'il y a un petit peu de marge de manœuvre et de discours d'espoir à porter ici.
Oui, alors vaste sujet, je reviens peut-être pour commencer sur la politique de la ville et ses évolutions. Tout à l'heure, je commençais à parler d'un glissement qui s'est opéré sur les 40 dernières années, depuis les débuts de la politique de la ville. Il y a même eu tout un tas de dispositifs, tout un tas de glissements, mais malgré tout, quand cette politique elle émerge au début des années 80, on va dire qu'il y a quand même une dimension sociale, il y a quand même la volonté de faire des choses de façon relativement horizontale avec les acteurs des quartiers, une certaine reconnaissance des habitants de ces quartiers comme acteurs, même s'il ne faut pas du tout romantiser non plus cette période, hein. D'autant moins que, 1983, il y a la marche pour l'égalité et le racisme, mais ça va quand même pas vraiment se traduire par des politiques sérieuses d'égalité, de lutte contre les discriminations et contre le racisme. Malgré tout, ce qu'on va observer globalement dans cette politique, c'est que progressivement, elle s'est donc de plus en plus construite autour de ce cadre sécuritaire. Hein. On voit les habitants des quartiers populaires comme des délinquants, avant tout, voire comme des menaces à la cohésion de la société française. Alors, je pense par exemple à ce qu'on a observé après les dernières grandes révoltes de juin 2023, après la mort de Naël Merzouk. On a vu quelles réponses étaient formulées, quels discours étaient formulés par les classes dirigeantes. Hein. Donc aucune réponse à la question des violences policières et du racisme policier. Stigmatisation des jeunes qui ont participé à ces révoltes comme délinquants, dispensant des formes de violence complètement irrationnelles. Et puis responsabilisation des parents aussi. On retrouve vraiment des échos avec les paroles qu'on a entendues tout à l'heure. Et tout ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une forme de dépolitisation d'un certain nombre de problèmes, hein, à commencer par celle du racisme et des discriminations. Il y a un autre mouvement aussi dans la politique de la ville, c'est que depuis une vingtaine d'années, l'accent a été mis sur l'approche par le bâti, ce qu'on appelle la politique de rénovation urbaine. La loi Borloo, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est 2003. Et à partir de là, il y a eu une inflexion. Hein. L'accent, les moyens ont été orientés en grande partie là-dessus, donc sur une logique de démolition, reconstruction et donc relogement aussi. Mais ça s'est fait quand même en grande partie aux dépens de toute la dimension sociale, de tout le soutien à des actions socio-éducatives, culturelles, etc., dans les quartiers populaires. Et puis, le problème aussi, c'est que cette politique de rénovation urbaine, elle s'est faite sans vraiment prendre en compte, là, à nouveau, la parole des gens qui vivent dans ces quartiers, alors même que cette politique, elle a été très largement construite autour d'un discours participatif, on a mis en place des instances participatives, etc. Dans les faits, ce qu'ont souvent constaté les habitants, c'est que, oui, on leur demandait éventuellement leur avis, mais pas sur ce qui était le plus important pour eux. Qu'est-ce qu'on démolit? Où on est relogé? Est-ce qu'on choisit de rester dans le quartier ou de partir ailleurs? Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans l'actuel gouvernement, on n'a pas de visibilité de la politique de la ville. On a une ministre qui est la ministre du logement et de la rénovation urbaine. ça nous dit vraiment quelque chose de ces recompositions de la politique de la ville. Et tout ça, c'est un gros problème, parce que tout le tissu qui est extrêmement important dans les quartiers populaires, tout le tissu associatif, toutes les initiatives sociales, éducatives, d'éduc-pop, etc., ben, tout ça, ça souffre de ces réorientations de la politique de la ville. Après, il y aurait plein d'autres choses à creuser, en fait, sur l'absence de politique, de réelle politique antiraciste aujourd'hui et antidiscrimination, sur la destruction des services publics, c'est extrêmement important aussi, cette dimension-là, parce que dans le fond, la politique de la ville, c'est une très faible proportion du budget de l'État, alors que les services publics, il faut vraiment les renforcer, enfin, les politiques de droit commun, les services publics, il faut absolument les renforcer dans les quartiers populaires. Et puis, il y aurait certainement un sujet aussi sur la police. Quel type de police on veut dans les quartiers populaires? Bon, c'est des fils qu'on pourra tirer ou pas.
Peut-être pour rebondir là-dessus, Marwan, peut-être si tu pouvais, si tu avais envie de rebondir là-dessus et peut-être nous dire des choses sur les conséquences que produisent les inégalités sur les sociabilités des jeunes.
Alors, deux choses peut-être. La première, c'est autour de la notion d'adversité. La notion d'adversité, elle est assez intéressante. Un climat où il y a de fortes discriminations, de fortes stigmatisations à l'égard d'une population et d'un quartier, ça crée le sentiment de vivre dans un climat d'adversité. Et ce sentiment-là de ne pas être accueilli, mais parfois c'est juste le prix du café au centre-ville qui dissuade. Hein, le prix du café est politique. Hein. Ce n'est pas qu'une question économique. Par rapport au prix du café, on ouvre ou on ferme son établissement, ou on le réserve à une certaine catégorie par rapport à une autre. Voyez. Donc l'hospitalité, l'inhospitalité, c'est comment les commerçants accueillent les différentes pans de la population. Est-ce qu'il y a des contrôles répétés contre qui ils sont répétés? Une enquête du défenseur des droits avait montré que si on est noir et arabe, jeune, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par les policiers si on était membre du groupe majoritaire, si on était blanc. Et puis, ces contrôles ont des effets. Parce que si on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler, on a aussi 20 fois plus de chances de se faire attraper avec une petite boule de shit dans la poche. Et tout ça se traduit dans la population pénale qui va arriver dans les commissariats, les tribunaux correctionnels. Vous voyez, c'est pas que ça comme conséquence. Et dès que vous avez un casier, eh ben, vous avez des centaines de milliers d'emplois qui se ferment à vous. Parce que, et notamment les emplois publics, mais d'autres emplois dans la sécurité, etc., qui nécessitent d'avoir un casier vierge, parce que les choses se resserrent. Vous voyez qu'en termes de quand on parle de perte de chance, on peut partir d'une petite chose qui est le contrôle d'identité, mais il faut regarder tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et puis les effets sur la subjectivité, sur le rapport à la vie sociale. Hein, c'est comme dans beaucoup de quartiers populaires, ce sentiment d'adversité, il est vécu au quotidien, aussi localement dans la rue. Parce que la rue, elle peut être dure. Et des jeunes peuvent être durs entre eux. Parce que les logiques de respectabilité, ils sont beaucoup basés sur la notion de réputation publique, dans l'espace public. Vous savez, c'est extrêmement important. Et on ne comprend pas ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi parfois on s'énerve ou on déraille pour un mauvais regard. Un mauvais regard, ça reste un mauvais regard. Mais pour certaines personnes, le regard vient attaquer l'amour-propre, comme tu disais hier, Yvon. Et l'amour-propre, c'est parfois le dernier capital social sur lequel on se raccroche. Donc, des fois, des gens performent une forme d'agressivité, de fermeture, de dangerosité. C'est une manière d'envoyer un message et de s'adapter à un climat d'adversité. Qu'est-ce que produit l'adversité du contexte? Si on sent qu'on n'est pas accepté, on est rejeté, etc., eh ben ça crée aussi un phénomène de bande. Pourquoi? Parce qu'on se sent plus serein si on sort à plusieurs. Et dans des cas extrêmes, l'adversité crée quoi? C'est que des fois, on sort, si on sent qu'on peut être menacé, attaqué physiquement. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les rivalités de quartier. Et dans les bassins de rivalité de quartier, notamment en Île-de-France, dès lors qu'on peut être attaqué, dès lors qu'on habite un quartier ou tel quartier, beaucoup de jeunes sortent armés d'un couteau. Non pas parce qu'ils ont un plan d'agression en tête, mais ils veulent pouvoir s'en servir au cas où. Et c'est terrible, parce que des fois, ils s'en servent. Et ça produit des drames. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le climat d'une ville, le niveau de discrimination, le niveau de rejet, le niveau d'hospitalité, inhospitalité, le niveau de racisme, ça crée une ambiance territoriale. Ça crée des logiques de fermeture, de perte de chance qui sont extrêmement importants. Voilà. C'est ça que, sur quoi je voulais insister par rapport à ta question en termes de sociabilité. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le lien entre scolarité et sociabilité, il est majeur. Hein. Si vous voulez deux chiffres, vraiment. Hein. Premier chiffre, c'est, moi j'ai travaillé sur les bandes de jeunes, je me suis fait une base de données et j'ai vu que plus de 80% des jeunes de ma base de données étaient non diplômés. Il y avait seulement 30% de non diplômés dans le quartier. Donc vous voyez à quel point c'est net. Une enquête sur la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, qui s'occupe des mineurs délinquants, service du ministère de la Justice, menée dans les Bouches-du-Rhône, donc autour de Marseille, montre, donc ils ont épluché tous les dossiers, vous avez à peu près 2/3 de redoublants, et sur ces 2/3 de redoublants, vous avez les 2/3 qui ont redoublé dès le CP. Donc les échecs scolaires, ils sont précoces. Il est là le vivier, hein. Petite délinquance, etc., il est là le vivier. Échec scolaire précoce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a même pas des décrocheurs, mais on a des non-accrocheurs. Et on a des dizaines chaque année de non-accrocheurs qui arrivent à l'école et qu'on laisse comme ça, comme des patates chaudes. Et après, on s'étonne qu'ils aillent chercher dans des formes de transgression de quoi accéder à une forme de reconnaissance. Ce qui sort sans qualification. Alors ça, c'est chaque année, ce chiffre a un petit peu baissé ces dernières années, mais ça reste massif. Et pour chaque QPV, vraiment, le nombre d'enfants qui sort de maternelle, qui arrive et qui a des difficultés en CP, c'est très important. Moi, j'ai pas posé la question à Roman, je l'ai posé dans des villes d'Île-de-France. On n'était pas en dessous de 50% de tous les enfants de classe de maternelle de ces quartiers politiques de la ville qui ont des difficultés au test, au CP, et tous les enfants ont le même. C'est massif, ce dont je vous parle. Quelles sont les politiques publiques qui sont menées pour réduire? C'est là, en fait, où on attend peut-être... On est en droit d'attendre le politique et d'attaquer les inégalités à la racine et d'apporter les ressources là où il y en a besoin. Alors les parents, on a beau jeu de leur dire plein d'injonctions, il faut. Parfois, ils n'ont pas les ressources et tout le monde le sait. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est ça la réalité.
On sort en trombe, en nombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, Emmanouchien vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60. Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc mon pan Peter Pan va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage. Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent à leur chaise musicale. Personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui prend le choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pâche de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Ben, je propose justement qu'on donne de la texture à ça avec les questions de trajectoire de votre côté avec Yvon et Isabelle, si vous voulez nous dire qu'est-ce que ça fait tout ça sur les trajectoires.
En tout cas, l'impact des politiques publiques sur les trajectoires, on n'évalue pas bien en France l'effet des politiques publiques, on s'y intéresse pas tant que ça. Je crois qu'en Europe du Nord, ils sont meilleurs que nous. Donc c'est pas toujours facile d'évaluer l'effet des politiques publiques, mais quand on s'intéresse à des trajectoires, et nous on l'a fait dans cette famille à Tonga, et en particulier sur les parcours des deux frères, on a essayé de réfléchir ensemble sur les points de bifurcation et ce qui a été notamment aidant pour Yvon. Et au niveau des politiques publiques, d'une part, parce que tu vas le compléter après moi, vous avez eu le sentiment, toi et ton frère, que par rapport à vos frères aînés, vous avez été abandonnés. Qu'au niveau des politiques locales, au niveau de la maison de quartier, vous avez eu moins que vos aînés. Et donc déjà, vous vous êtes construit à 12, 13 ans dans un sentiment d'injustice par rapport à ça. Il n'y avait pas accès aussi facilement aux salles, il n'y avait plus l'éducateur, vous n'avez pas eu le droit, vous partiez jamais pendant les vacances scolaires, des choses comme ça. Tu as eu aussi le sentiment qu'à un moment donné, la police qui intervenait, alors je pense qu'à l'époque où vous étiez petit, c'est pas la police de proximité, mais il y avait une politique locale, ou en tout cas l'été, il y avait des interventions de la police pour... Voilà, toi, tu te souviens, ils jouaient au foot avec vous, ils vous emmenaient à quoi, boulevard, et tout ça, quand on est petit, c'est important. Et donc, là aussi, les politiques publiques, le rapport qu'on a aux institutions, le rapport qu'on a à l'État, il se structure aussi dans ces politiques au niveau local. Autre chose qui est importante dans ton histoire, tu dis que le moment où tu as décidé... Tu rebondiras, hein, de te raccrocher à l'école quand tu te rends compte que c'est important... suite au voyage, une fois que ta mère t'a envoyé au Congo, tu te dis là, il faut que je travaille à l'école. Et ben là, il y a des bibliothèques. Et à la bibliothèque, quand tu veux faire un exposé, tu décides de faire un exposé sur l'esclavage, suite à une série qui circulait, hein, sur des cassettes VHS. La série, ça s'appelait Racine. Donc ça t'intéresse. Y a la documentaliste, elle est là pour t'expliquer où tu vas trouver les livres, comment tu cherches les fiches. Il y a des enseignants dans ton parcours aussi qui sont là, qui consacrent un peu plus de temps parce que voilà, ils savent qu'à la maison, les conditions sont pas forcément les meilleures. Et puis il y a une politique publique très importante pour toi. On n'en parle plus, on n'en a pas tellement évalué les effets. Toi, tu dis que pour toi ça a été essentiel, c'est la politique des emplois jeunes. À un moment où ta mère a besoin d'aide matériellement, tu es encore à la maison, bah, tu peux un peu aussi la soulager en travaillant du coup comme aide éducateur dans le collège de ton quartier. En plus, ça donne du sens parce que tu peux être utile pour les petits frères du quartier. Autre moment important dans ta trajectoire, c'est quand tu entends parler des recrutements à la SNCF et il y a une politique d'ouverture à la diversité à la SNCF. Et ça permet à des gens comme toi de rentrer. Alors t'appréhendes un petit peu parce que pour toi, les contrôleurs de la SNCF, c'est des gens qui parfois pouvaient avoir des remarques racistes quand vous étiez en bande dans les transports en commun ou qui... t'as une image d'un univers qui peut-être va être hostile. Et puis finalement, tu te rends compte que non. Là, il y a des syndicalistes qui sont là pour vous accueillir. Donc voilà, tout ça, peut-être tu le diras mieux que moi, mais on se rend compte qu'il y a à la fois, pour orienter les trajectoires, il y a des politiques publiques qui favorisent effectivement des moments où on peut se raccrocher à des choses. Et puis au fur et à mesure de ton ascension, tu rencontres d'autres milieux sociaux. Quand tu rencontres d'autres milieux sociaux, tu continues. C'est ce qu'on appelle la socialisation secondaire. Ça dure toute la vie, hein, les processus... de socialisation et puis y a aussi des rencontres, des rencontres professionnelles, des rencontres dans les institutions qui accompagnent les trajectoires et qui c'est des choses un peu comme ça que toi tu veux mettre en avant pour dire que et puis aujourd'hui dans ta démarche c'est l'idée de retourner dans les quartiers aussi pour montrer que c'est pas parce qu'on a grandi dans les quartiers que alors il y a pas que le rap ou le sport et il y a pas que ou des parcours délinquants, mais il y a aussi plein d'autres parcours dont on ne parle pas. Il y en a dans ton quartier, dans tes copains, il y en a un qui est instituteur, il y en a un qui est infirmier, dont certains ont eu un casier judiciaire à une époque, mais heureusement le casier, quand on a un bon avocat, on peut à un moment donné l'effacer. Et puis il y a des entrepreneurs, enfin il y a plein de parcours dont tu parleras mieux que moi. Et donc il faut donner ces figures d'identification aussi aux adolescents en retournant dans les quartiers, c'est ce que tu dis.
Oui, exactement. Moi, ce que je voulais dire à travers ce que Marwan a dit et ce que Isabelle dit, en fait, l'idée, c'est de d'être là, présent, face à vous. Vous êtes des parents. Il y a aussi des jeunes de quartier qui sont là parce qu'on se reconnaît juste d'un coup d'œil. C'est important de comprendre que il y a d'autres perspectives qui sont possibles. Voilà. Moi, j'ai grandi à Villiers-le-Bel. L'idée aujourd'hui, c'est d'être une figure d'identification. J'ai pu m'en sortir, j'ai pu construire ma maison. Voilà, c'était un rêve pour moi, j'ai pu le faire. Mais aujourd'hui, je reviens toujours à Villiers-le-Bel pour essayer d'aider les petits frères et les petites sœurs du quartier. Le livre, on l'a fait aussi pour ça, pour que mon petit frère ne soit pas mort pour rien, qu'il continue à exister. Nous, dans les quartiers, on a cette fierté et cette envie de continuer à transmettre et surtout de pas partir lorsque l'on part pour rien parce qu'il y a trop de morts. C'est pas normal. Mais ce que moi j'ai envie de dire à travers tout ça, c'est que ce que Marwan dit très bien, c'est que l'école, c'est très important. Quand on explique qu'en fait, quand on grandit dans un quartier et qu'on arrive à s'en sortir par l'école, eh bien derrière, on a des perspectives. Donc quand on a des perspectives, on a des objectifs. Et quand on a des objectifs, on essaye de mettre tout ce qui est la délinquance de côté. Mais lorsque l'on ne réussit pas à l'école, parce que moi, j'ai pu avancer et cheminer dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir un peu de facilité à l'école, des professeurs qui sont intervenus, comme les professeurs qui qu'on a pu rencontrer dans les écoles, et qui m'ont poussé vers la réussite scolaire. Et cette réussite scolaire, elle m'a permis derrière de rencontrer d'autres milieux sociaux. Et ces autres milieux sociaux m'ont permis de rencontrer d'autres personnes qui m'ont ouvert l'esprit. Et quand j'allais, moi, chez ces amis-là que j'ai rencontrés à l'école, puisque j'ai eu la chance de partir en général, j'arrivais dans des maisons, c'était des grosses maisons. Moi, j'habitais dans un appartement au quartier, on était 14 à l'intérieur. Et là, eux, ils étaient deux, un frère et une sœur, dans une grande maison. Je posais la question, qu'est-ce qu'ils font comme métier tes parents ? Comment ça se fait, c'est quoi, quel a été leur parcours. Et les éléments qu'ils me donnaient, en fait, me permettaient de me rendre compte, si demain je deviens entrepreneur, si demain je deviens avocat ou juriste, moi aussi je pourrais construire ma maison. Donc ça m'a ouvert l'esprit, j'ai eu cette chance-là. Mais j'ai de l'autre côté des amis avec qui j'étais au quartier, qui eux sont tournés vers la délinquance parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir cheminer comme moi à l'école. Donc c'est là où l'école, c'est très important. Je pense que c'est important d'investir dans l'école, c'est important d'accompagner les plus jeunes. Quand on entend le petit de 2 ans dire « ara », ça traduit beaucoup de choses. Donc il faut faire attention à ces choses-là, il faut les accompagner dès petits, ils ont la possibilité de réussir. Mais s'ils n'ont pas de perspective derrière, si on ne les accompagne pas, à un moment donné, c'est la famille de la rue qui récupère. Et quand on est dans la famille de la rue, on a juste notre amour propre. Et l'amour propre, derrière, c'est quelque chose qu'on veut pas, qu'on n'acceptera pas qu'on nous l'enlève. Et si on vient nous l'enlever juste avec un regard parce qu'on a marché sur notre paire de baskets blanches, là, on va attaquer tout de suite. Et ça crée des drames, malheureusement, pour rien. Et quand on va creuser, en fait, à l'intérieur de tous ces drames qui se passent, on va se rendre compte qu'il n'y avait rien derrière. Mais c'est des familles qui restent endeuillées, c'est des familles qui pleurent. Quand on est dans la rue, bien sûr, nous, on ne s'en rend pas compte. Parce que pour nous, c'est l'honneur tout de suite. C'est d'abord l'honneur, la priorité, c'est l'honneur. D'accord ? C'est d'abord l'honneur, c'est réussir à s'en sortir. On nous donne pas la possibilité de nous en sortir autrement, donc on va faire ce qu'on sait faire, c'est rentrer soit dans la délinquance ou soit dans l'illicite. Parce que c'est ce qui nous est offert là tout de suite. Mais s'il y a un travail qui est fait en amont, qui est fait à travers des parcours scolaires avec des professeurs qui sont géniaux, que j'ai vus ici, qui s'impliquent, et que les jeunes derrière, ils essayent de s'accrocher, que les parents s'accrochent, et tout ce qui est mis en place dans cette ville, c'est incroyable. Nous, on n'avait pas ça à Villiers-le-Bel. Peut-être que si on avait ça, peut-être que si... on avait des grands frères comme moi qui venaient dans notre quartier, peut-être que mon frère serait encore vivant. Donc c'est pour ça que c'est important de faire tout ce travail, et je ne pense pas que ce soit un travail qui soit vain et que ce soit un travail qui ne va pas amener des fruits. C'est des graines qui sont posées, mais derrière ces graines, elles vont créer des arbres et des branches. Et j'espère que dans 10 ans, les jeunes de la Monnaie, derrière, on aura un taux de réussite important et des personnes qui vont pouvoir créer des entreprises, des personnes qui vont pouvoir devenir avocats parce que c'est possible. Nous, aujourd'hui, on le voit avec le recul. Bon, moi, je suis aujourd'hui un peu plus âgé, mais je le vois avec le recul. Comme Isabelle a expliqué, à travers le livre, on a pu interroger des amis ou des jeunes du quartier ou des jeunes que moi, j'ai pu accompagner quand j'étais aide éducateur à l'époque. C'était Jospin qui avait mis en place les aides éducateurs qui étaient un emploi jeune. Donc ça me permettait d'être entre guillemets pion, surveillant dans un collège. Et donc, en étant surveillant dans un collège, j'étais surveillant moi dans un collège, le collège qui était anciennement ennemi de mon quartier. Donc les grands frères des petits que j'avais moi en tant que surveillant, c'était des anciens ennemis à moi, qui sont devenus des amis après, mais c'était mes petits frères pour moi. Et donc je les ai accompagnés, je les ai conseillés. Aujourd'hui ils ont grandi, ils ont des enfants. Quand je les croise dans les centres commerciaux ou via les réseaux sociaux, ils m'envoient des messages pour me dire merci grand frère, le conseil que tu nous as donné, ça m'a permis moi de créer mon entreprise parce que moi je leur tirais les oreilles. Hein. Moi je leur tirais les oreilles. Hein. Quand il y avait un souci, on m'appelait, je venais, je leur tirais les oreilles. C'était des petits frères. Et on a un petit aujourd'hui qui est devenu que j'avais moi au collège. Qui est comme un petit frère, aujourd'hui il est devenu député de notre circonscription. Carlos Bilongo, c'est un petit à moi. Et donc voilà, ça veut dire que c'est possible. Il faut se donner les moyens, il faut qu'il y ait des personnes qui s'impliquent. Et à partir du moment où les personnes s'impliquent, on peut réussir à changer la tendance.
Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous mettre, de pouvoir poser des questions. Et pour ça, vous allez vous retourner, vous mettre par 4, 5 et réfléchir ensemble à tout ce que vous avez pu entendre pour pouvoir noter quelques questions sur des feuilles qu'on va vous distribuer ou si après vous le sentez comme ça. Noémie a les feuilles là-bas, elle va passer. Et puis nous, on prendra les questions et ensuite, on va avoir un temps de slam qui va nous permettre de faire un second rebond. Par rapport à ce que vous avez entendu, puis à la fin on prendra les questions, comme ça nous permettra de poser vos questions. Ça vous va? Donc par 4 ou 5.